Ce temps de l'Avent est un temps du désir, où le désir de Dieu est invité à grandir en nous. Et ça peut être intéressant de nous interpeller et de nous interroger sur le fait, est-ce que ce temps de l'Avent, nous le voyons comme un temps joyeux ? Vous savez, le temps de l'Avent nous prépare à Noël. Et donc, ça fait partie des mystères, pour ceux qui prient le chapelet, des mystères joyeux. Et donc, il y a une démarche à la fois de... Il y a un côté, j'allais dire, pénitentiel, parce que pour ceux qui sont pratiquants, vous voyez que le prêtre revêt la chasuble mauve. Et donc, voilà, donc c'est, et comme celle qu'il prend, violette, voilà, pour celle qu'il prend pendant le carême. Et puis, mais c'est une tonalité spirituelle différente. C'est-à-dire, c'est vraiment de dire, oui, il y a un travail à faire sur soi-même, mais l'avènement ensuite sera joyeux, sera l'avènement de. C'est le temps d'une grossesse. Et bon, je ne connais pas grand-chose en grossesse, mais bon, toujours est-il que, semble-t-il, parfois c'est un peu complexe, mais les femmes sont ravies qu'elles ont leur nourrisson dans leurs bras. Et donc voilà, ce temps joyeux, ce temps de l'Avent qui aboutit à Noël, c'est un temps au fond de préparation de la fécondité. Et je me dis, tiens, et si nous voyons ce temps-là comme réfléchir à la manière dont nous portons des fruits et un fruit qui demeure ? Parce que nous sommes appelés à ça. Ce qui est important dans notre vie, c'est ça, c'est porter du fruit et un fruit qui demeure. Mais ça a besoin d'être préparé. De même que Marie nous a donné le fruit de vie en Jésus, mais cette préparation que nous symbolisons dans le temps de l'Avent nous aide aussi à nous dire nous-mêmes qu'est-ce que nous mettons en place pour peut-être souligner ce qui peut être source de fécondité dans notre vie, mais aussi qu'est-ce qui peut être un blocage au fait de porter du fruit. Qu'est-ce qui peut être un blocage au fait de porter du fruit ? Ce temps de l'Avent, si c'est le temps de la fécondité, cette fécondité vient en grande partie du désir. Et c'est intéressant de voir que Jésus, dans l'Évangile, réveille le désir. On le voit avec la Samaritaine, avec Zachée, à la différence, par exemple, des sagesses asiatiques pour qui le désir est vécu comme une souffrance. Et parce que c'est l'expérience d'un manque. Alors que nous disons au contraire, le désir, c'est déjà l'anticipation du bonheur. Donc c'est une manière de voir le désir un peu différente. Et ce désir-là, au fond, que le Seigneur nous invite à réveiller en nous, ce désir de lui, eh bien on le voit dans deux personnes qui caractérisent l'Avent. On le voit dans la personne de Jean-Baptiste, qui est une des grandes figures de l'Avent. Il annonce le Christ qui vient, il annonce celui qui vient, et la figure évidemment de Marie, la Vierge Marie, qui est la grande figure de l'Avent, avec la fête du 8 décembre, l'Immaculée Conception. Donc nous aurons, qui se fêtera le 9, parce que le 8 tombe un dimanche. Donc c'est intéressant de dire, tiens, au fond, la fécondité est liée au désir et à l'expérience aussi d'un manque. Est-ce qu'on laisse parfois une sorte de béance advenir à l'intérieur de nous ? Est-ce qu'on laisse en nous-mêmes quelque chose qui fait qu'on ne va pas tout de suite combler par une question finie, notre désir d'infini. On ne va pas tout de suite combler par de la consommation, par exemple, combler par la nourriture, la boisson, combler par les relations. C'est intéressant de vivre ce temps de l'Avent comme aussi une dimension de solitude. Ça peut être... Pour vous, en tout cas, je vous le conseille, il y a beaucoup de risques, vous le savez, pour vous qui êtes trentenaire parisien, etc., d'hyperactivité qui s'oppose, évidemment, à une certaine fécondité, à une vie spirituelle, à une vie contemplative. Et proposez-vous la question, est-ce que ce temps de l'Avent, ça peut être aussi un temps où j'expérimente une certaine forme de page d'agenda vide, et sans être paniqué. Sans courir de... on vous propose prendre un verre, on vous propose des after-work, on vous propose même des choses très spirituelles. Toutes les soirées, pratiquement, vous pouvez remplir d'activités spirituelles. Justement, je me dis, tiens, est-ce que vous ne feriez pas un tri dans votre agenda ? Est-ce que vous ne feriez pas un tri dans votre agenda ? Est-ce que, justement, pour vous préparer à Noël, à la joie de Noël, alors qu'on voit que nos sociétés sont très... dans une dimension de consommation, de marchande, etc. Mais justement, nous, on veut être dans une dimension plus contemplative. On veut, et c'est intéressant de voir que la, vous voyez, la nature se recueillit aussi. Vous voyez, c'est un recueillement de la nature. Hein, 5h30, il fait déjà nuit. Vous voyez, je me dis, tiens, cette nature-là, et puis moi qui vis, donc je suis à l'abbaye d'Ourscan, dans l'Oise, je suis appartenant à la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie, donc on est vraiment dans la campagne. Mais on voit justement, il y a plus de. On voit l'hiver qui commence vraiment à poindre le bout de son nez, bon, la température qui baisse. Je veux dire, voilà, on a besoin de choses chaudes, on a besoin de. Voilà, je trouve ça intéressant de dire, tiens, cet écho que la nature nous fait, en quoi il trouve aussi une certaine manière de vivre notre vie spirituelle. En quoi la nature nous indique aussi de nous recueillir aussi dans notre vie intérieure, de développer une dimension contemplative pour expérimenter le désir de Dieu et donc quelque chose d'un manque, je pense, quelque chose d'un manque. Hein. Donc ce désir de Dieu vient aussi avec l'humilité. Et on voit bien ce qui caractérise Jean-Baptiste. Hein, vous voyez, je rappelle la figure de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, hein, c'est celui qui vient. Il annonce le Christ qui vient. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas. Je ne suis pas digne de descendre, de faire ses sandales, etc. C'est vraiment l'humilité. Jean-Baptiste, il est le disciple du Christ, alors qu'il est l'aîné de son cousin, le cousin de Jésus, alors qu'il est l'aîné de son cousin, mais c'est lui qui va se mettre à sa suite. Et ça veut dire une vraie humilité. Une vraie humilité, une vraie attention aux motions du Saint-Esprit. Et je crois que ce temps de l'Avent, ça peut être un encouragement à être davantage justement connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Comment le Seigneur agit. C'est le temps du discernement de l'appel. Par définition, c'est le temps de l'Annonciation. Vous voyez, Marie, qui est aussi la deuxième grande figure de l'Avent avec Jean-Baptiste, bien Marie est celle qui va nous mettre dans une attitude d'écoute. Hein, c'est l'Annonciation, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc voilà, toutes ces choses qui reviennent régulièrement dans le temps de l'Avent, qui est assez court, hein, 4 semaines. Mais je me dis, tiens, c'est un temps vraiment de contemplation, un temps très différent de la tonalité du carême, par exemple. Hein. Le carême est un temps beaucoup plus violent, d'une certaine manière, bien sûr, avec la Semaine Sainte et la Passion. Hein, donc voilà, soyez attentifs à voir comment est-ce que justement vous pouvez souligner dans votre vie ce qui fait obstacle au désir de Dieu, ce qui fait obstacle aux appels du Seigneur, aux motions du Saint-Esprit. Et ce qui fait obstacle, c'est la toute-puissance, qui est précisément le contraire de l'humilité. La toute-puissance qui fait que, vous savez qu'il y a 3 formes de toute-puissance, toute-puissance de la chair, toute-puissance des richesses, toute-puissance de l'esprit, hein, ce qu'on appelle aussi les 3 concupiscences, vous avez peut-être entendu ce nom-là, ou les 3 tentations du Christ. Vous vous rappelez, quand vous avez lu les tentations du Christ, donc le Christ emmené au désert, eh bien, il lutte contre, dans son humanité, évidemment, il lutte contre ces 3 formes d'orgueil aussi. Plusieurs manières de détecter en nous où est-ce qu'il y a un point faible, où est-ce qu'il y a une sorte de un point aveugle. Parce que l'orgueil, c'est toujours ça, c'est on n'arrive pas à en prendre conscience. Comment dire, l'orgueil, il y a une sorte d'angle mort. On ne se voit pas agir. Et du coup, c'est intéressant, en tout cas ceux avec qui on partage notre vie, que ce soit des amis, de la famille, voire des collègues, mais c'est peut-être moins pertinent, mais d'interroger, de dire, voilà, en quoi j'ai une conversion encore à faire, en quoi j'ai une humilité à acquérir, cette volonté d'avoir raison, est-ce que c'est quelque chose qui est présent en moi. Donc, cette toute-puissance qui consiste, donc, qui s'oppose à l'humilité, qui consiste à vouloir combler par du fini l'infini. Hein, le désir, c'est accueillir une forme de béance en nous, c'est accueillir une tension en nous. C'est, peut-être vous avez entendu parler de cette catégorie théologique qu'on appelle le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Déjà, le royaume des cieux est là, nous le croyons, il est au milieu de vous, hein, le royaume, mais pas encore dans la plénitude. C'est cette tension que le chrétien vit, il est dans le monde, mais pas du monde. Vous voyez, pas tout pareil, il y a déjà quelque chose qui se vit du royaume de Dieu, mais j'attends un avènement qu'il advienne dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Voilà, on a une attente. Donc il y a une forme de tension en nous, il y a une forme de tension qui fait que, précisément, cette tension, eh bien, je vais la vivre avec la Vierge Marie. La Vierge Marie qui gardait ces choses dans son cœur, que cette attitude contemplative de l'avant, ce temps du désir est un temps aussi de l'annonciation. Hein, ce temps de l'avant, c'est un temps de l'annonciation, et donc des appels que le Seigneur vous lance à travers des rencontres, à travers des demandes, à travers... Voilà, il y a multiples formes d'appels que le Seigneur peut vous lancer. Eh bien voilà, je trouve c'est... Si vous êtes recueillis, vous vivez ces 4 semaines à plein, qui sont encore une fois très courtes, hein. C'est un temps liturgique très... Peut-être, si c'est possible pour vous, d'aller à la messe en semaine. Oui, je pense que si vous avez près de votre travail, etc., ou voilà, c'est... Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez à la messe le dimanche, mais d'aller à la messe en semaine pour justement écouter la parole de Dieu. Hein, cette écoute de la parole de Dieu qui est vraiment une écoute mariale, qui est une attitude mariale et qui est typique du temps de l'Avent, hein, que Jean-Baptiste aussi nous rappelle. Donc on a vu que c'est aussi avec l'humilité que l'on va commencer à éveiller le désir de Dieu. Et j'aimerais peut-être travailler davantage sur ce qu'est l'humilité. L'humilité, c'est déjà la définition, ça vient de humus. Humus, l'étymologie, ça veut dire qui a formé le mot homme. L'humilité, donc, c'est la terre dans laquelle se déploient nos charismes. C'est la terre dans laquelle se déploient nos talents. C'est la terre qui va permettre de développer les fruits et un fruit qui demeure. Et donc, c'est intéressant de dire qu'on voit parfois des personnes qui ont des talents incroyables, mais il y a un tel ego surdimensionné qui va avec ces talents, que c'est pratiquement imbuvable. Vous voyez, c'est imbuvable, c'est ingérable, parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop de volonté de dominer, d'avoir raison, d'avoir etc. Alors que par ailleurs, des humanités qui sont très talentueuses. Vous voyez, donc on voit souvent des personnes qui ont... Donc c'est pas facile d'avoir beaucoup de talent et beaucoup d'humilité. Et pourtant, nous sommes appelés à ça, parce que c'est les deux. Mais l'humilité, c'est aussi une vertu. C'est une vertu, hein, donc une vertu, vous savez, c'est la... disposition acquise par la répétition des actes. Donc il y a une répétition qui est demandée dans l'humilité. Hein, on ne naît pas humble, on le devient. Hein, de même, on ne naît pas courageux, on le devient. On ne naît pas prudent, fort, tempérant, etc. On le devient. Donc c'est quelque chose qui, en répétant des actes d'humilité, eh bien, par exemple, je vous donne des exemples, ne pas se justifier. Ne pas se justifier. Parfois, il y en a qui sont très attentifs à plaire, se voient dans le regard de l'autre. Se voient dans le regard de l'autre. Le désir de plaire, c'est une plaie. Précisément parce que c'est toujours être attentif à ce que l'autre va penser, à être validé par l'autre, etc. Et ça, c'est une forme d'orgueil aussi. C'est une forme d'orgueil qui empêche des fruits d'advenir, le charisme de se développer, des charismes que vous avez reçus. Il y a plusieurs manières de vivre l'humilité, peut-être le développer avec vous de cette manière aussi. C'est premièrement l'humilité face au temps. Quel est notre rapport au temps? C'est intéressant que notre vie de foi, à travers l'année liturgique, et à travers les périodes de l'année liturgique, donc le temps de l'Avent, ensuite le temps de Noël, on aura un peu de temps ordinaire, ensuite le temps du carême et Pâques, etc., nous fait revisiter notre rapport au temps. C'est intéressant que nous, comme chrétiens, on a un temps fléché. On a un temps fléché, ça veut dire quoi? C'est un temps qui a un début et qui aura une fin. Nous savons que ce temps-là, ce monde-là aura une fin. Elle passe la figure de ce monde. Hein, vous avez ça dans l'Écriture. Donc, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Donc, mais ce monde-là a eu un début. Donc, c'est différent, par exemple, des sagesses asiatiques qui voient un temps circulaire. hein, avec la réincarnation. Nous ne croyons pas ça, bon, respectons chaque conviction, mais nous ne croyons pas ça, nous croyons à la résurrection, ce qui est tout à fait différent. Donc nous croyons à un temps fléché. Donc il y a une forme d'urgence dans notre manière de vivre le temps. Et donc l'accueil dans ce rapport au temps, de découvrir que, et particulièrement dans le temps de l'Avent, que le temps, ce n'est pas quelque chose qui passe, c'est quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un qui vient. Je trouve que c'est beau de réfléchir là-dessus. Il y a quelqu'un qui vient à notre rencontre. Et donc je vois ce temps-là comme un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre avec le Seigneur. Mais aussi, l'humilité face au temps, c'est l'accueil de son rythme, de celui de l'autre, du rythme de Dieu. Hein? L'accueil de la limite, et donc la dimension de la patience. C'est vrai que cet accueil de la limite, cet accueil du rythme, le fait de ralentir, et est-ce qu'on pourrait justement, je parlais de l'agenda, mais savoir avec ça aussi. Est-ce que le fait de ralentir aussi dans votre vie de tous les jours, hein, dans vos activités, ne va pas vous permettre de goûter le temps autrement, hein, le fait d'accueillir une limite, le fait de patienter. Hein, la patience, c'est compliqué. Hein, mais patience, c'est intéressant. Ça vient de patient, qui veut dire aussi souffrir, la passion du Christ. Donc il y a une forme de pénibilité dans la patience, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, je trouve ça intéressant de voir cette humilité face au temps, de dire, tiens, au fond, le Seigneur nous invite à une certaine patience, à accueillir notre rythme, à ne pas forcer les choses, mais aussi accueillir le rythme de l'autre, c'est-à-dire l'autre comme autre, celui qui est l'ami, celui qui est le collègue, celui qui est... peut-être avec qui vous êtes dans une relation amoureuse, etc. Bon, voilà, il y a à accueillir le rythme de l'autre. Hein, beaucoup, quand je suis en préparation au mariage, d'interpeller les fiancés sur le rapport au temps de chacun. C'est très instructif. C'est très instructif parce que... Et souvent, je repère assez vite, pratiquement dès la première rencontre, certains n'ont pas du tout le même rapport au temps. Mais c'est pas simple de vivre avec quelqu'un qui n'a pas le même rapport au temps. Donc c'est un déplacement de soi-même, c'est une sortie de soi-même, c'est un exode de soi, c'est un acte d'humilité d'accueillir le temps de l'autre, je trouve, et d'accueillir le temps de Dieu, a fortiori, hein, c'est accueillir au fond l'altérité, l'autre comme autre que moi. Ensuite, cette humilité, elle est aussi face au corps. Là aussi, l'accueil de ses limites corporelles, l'attention à la santé. Est-ce que je tire sur la corde au niveau de ma santé? Est-ce que je consulte quand j'ai mal? Est-ce que, voilà, c'est ces dimensions-là. Est-ce que c'est aussi, au niveau corporel, c'est la dimension de la chasteté pour ceux qui sont dans une relation amoureuse. Le corps de l'autre ne m'appartient pas. Hein? La chasteté, vous faites bien la différence avec la continence. La continence, c'est l'absence de relations sexuelles, la chasteté dans le mariage, on se vit aussi, c'est de découvrir l'autre comme une personne et non pas comme une chose. Alors que justement la toute puissance liée à la chair, à l'orgueil de la chair, c'est je transforme l'autre en une chose, la chasteté viendra au contraire respecter l'autre dans sa dimension de personne. Et donc avoir une certaine distance par rapport au corps, mais la chasteté elle est aussi plus vaste que le corps. La chasteté, elle est ne pas faire que renoncer à toute forme d'emprise. Ça va avec le corps, mais renoncer à toute forme d'emprise. Hein, et donc, on voit bien parfois dans des emprises hein, spirituelles, des emprises dans les entreprises, etc., et qui aboutissent parfois à des dérapages au niveau sexuel. Bon, c'est assez fréquent parce que, justement, l'autre m'appartient. Et ça, c'est renoncer à ça. Si vous êtes dans une situation de responsabilité, par exemple, professionnelle, ben voilà, renoncez à la toute-puissance et à l'emprise. Hein, parce que ou si vous sentez que vous êtes admiré par quelqu'un, vous êtes, voilà, il faut renoncer à ça. Faut vraiment, je crois que c'est quelque chose qui est important à travailler. Donc la chasteté, donc oui, c'est le rapport au corps, une certaine distance par rapport au corps de l'autre, mais c'est aussi un rapport à la personne de l'autre, où j'accepte l'autre aussi suivre son chemin. Il y a aussi une humilité, non seulement dans le corps, mais aussi dans la volonté. hein, la volonté, le désir d'avoir raison, la volonté de puissance, hein, que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est, je veux avoir raison, je veux que les choses se fassent comme moi je l'entends. C'est ma manière de faire qui est la bonne. Et je ne suis pas justement à l'écoute, qui serait l'humilité, d'autres manières de faire. Et donc cette... mais aussi la volonté, donc il faut voir que quand il y a des difficultés, c'est le trop ou le pas assez. Donc là, j'ai parlé du trop avec le fait de voir raison, de la volonté de puissance, etc. Mais le pas assez, peut y avoir parfois une faiblesse de notre volonté. Nous ne sommes pas assez courageux. Nous ne sommes pas assez décidés, fermes dans notre décision. Hein, on voit bien en début d'année, on a des tas de... désir de changement, ou quand on sort d'une retraite, etc., etc. Puis ensuite, si on ne met pas en place, donc, on voit que notre décision soit ferme. Donc, le fait de l'humilité dans la décision, c'est être humble, c'est combattre le manque de courage. Oui, c'est pas forcément comme on le pense, l'humilité. Hein, c'est combattre le manque de courage. L'humilité dans l'intelligence. C'est intéressant, ça, l'humilité dans l'intelligence. C'est... au fond, l'accueil du réel. C'est intéressant de voir que... Moi, je me suis formé en philosophie, vous savez, pour être prêtre, pour faire des études de philosophie. Et j'ai beaucoup aimé mes études de philosophie que j'ai faites à l'IPC, peut-être certains d'entre vous connaissent, l'Institut de philosophie comparée, donc à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Et je trouve que c'est une philosophie du réel. Et du coup, on voit que dans cette philosophie, l'intelligence est fécondée par le réel, à la différence de l'idéologie. L'idéologie, c'est une manière de voir la personne humaine, une manière de voir le monde, mais qui ne s'enracine pas dans le réel. Donc, je trouve ça intéressant de dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir accueillir le réel aussi? L'humilité de l'intelligence, c'est l'accueil du réel, et puis de veiller à ne pas donner à ses désirs, non pas le désir de Dieu, mais l'infini de l'intelligence. Hein. Donc, parfois, on donne à ses désirs l'infini de l'intelligence, c'est-à-dire, voilà, on veut... Ben, c'est toutes les dérives, hein, le désir de plaisir, le désir de puissance, le désir de renommée, etc. On veut que ce soit... que ça ait il y a quelque chose d'infini dans l'intelligence. C'est intéressant de voir. On est à l'image, à la ressemblance de Dieu, par notre volonté et par notre intelligence, par notre capacité d'aimer, c'est-à-dire la volonté, par notre capacité de connaître. Hein, on est vraiment à l'image, à la ressemblance de Dieu par ces deux capacités-là. Mais ces deux capacités où il y a évidemment du combat intérieur. Il y a du combat intérieur parce que ça a à voir avec quelque chose d'infini en nous. Hein, donc c'est cette dimension de fini auquel on doit veiller qu'elle ne soit remplie que par Dieu seul, et non pas par des choses créées. Donc, attention de vouloir donner à nos désirs très humains l'infini de l'intelligence. Et c'est intéressant de rappeler aussi, par rapport à cette humilité de l'intelligence, l'importance de la foi. Vous le savez, la foi, elle est dans l'intelligence. La foi, elle n'est pas dans la sensibilité. Parce que parfois, on est trop dans nos sociétés, hein, qui sont beaucoup dans l'émotion, etc. Bon, je trouve... Et du coup, on voit, voilà, même qui s'applique parfois à la vie spirituelle. Alors, je ressens quelque chose, je ressens rien, mais je t'aime, je ne t'aime plus, etc. Donc, on confond amour et sentiment amoureux. Voilà. Donc, mais pareil au niveau de la foi. La foi, elle élève l'intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles aux cinq sens. À réalité qui ne sont pas dans le réel que l'on peut toucher avec ses cinq sens, les yeux, le toucher, etc., l'odorat. Voilà, c'est pas que ça élève, donc ça, d'une certaine manière, ça élève notre intelligence et ça la rend plus humble. Parce qu'on est face au mystère. Et on est face au mystère de Dieu. Donc je trouve ça très beau de dire que vous formez dans la foi, et je vous félicite d'être là, parce que c'est aussi ces rencontres, en tout cas, c'est un des lieux de formation, de vous éveiller. Bon, des choses que vous connaissez déjà, j'en suis sûr, mais de vous rappeler d'autres choses où elles sont dites autrement, etc. Mais votre foi, justement, vous rend humble. Le fait d'accueillir le mystère de Dieu, de se sentir dépassé, ne serait-ce que par le mystère de Noël, mais le mystère de l'incarnation, ça nous dépasse de toute manière. Nous sommes la religion du vertige, vous voyez, nous sommes la religion du vertige. C'est tellement vertigineux de dire que Dieu lui-même, qui est de toute éternité, a voulu prendre notre nature humaine dans le sein de la Vierge Marie. Je veux dire, c'est quelque chose mais tellement extraordinaire, tellement ça nous rend humbles. En fait, la contemplation du mystère de Noël, hein, et peut-être vous allez installer des crèches chez vous. Il y a des endroits où c'est compliqué d'installer des crèches, semble-t-il. Mais je pense que chez vous, vous allez installer une crèche quand même. En tout cas, chez nous, à l'abbaye, on va installer une crèche. Vous pouvez être tranquille. Ça, et même deux. Donc, voilà, ben, je trouve ça beau. On se met devant la crèche et on contemple, on reprend conscience. C'est des choses que l'on sait. Vous savez ça par cœur. Mais on reprend conscience du mystère de Dieu. On reprend conscience du waouh. Je veux dire, c'est juste énorme. C'est juste énorme que Dieu lui-même ait pris notre humanité. Donc, voilà, donc l'humilité de l'intelligence. L'humilité de la sensibilité aussi. Je trouve ça intéressant d'être attentif à ça, l'humilité de la sensibilité. Attention que les émotions, je trouve, elles ont une part, et c'est important qu'elles aient une part dans notre vie. Les émotions ont une part dans notre vie, et c'est tout à fait légitime hein, d'avoir... de laisser, en tout cas de prendre conscience de ces émotions en nous, hein, les émotions que l'on peut qualifier parfois de positives ou de négatives, que ce soit la joie, ou alors que ce soit la peur, ou que ce soit la tristesse, etc. etc. Et on voit bien qu'il y a des éducations où on n'a pas voulu accepter les émotions. Hein, on est un peu en mode cocotte minute dont on tient le bouchon. Voilà, on n'a pas poussière sous le tapis, on n'avait pas de lieu pour dire ces émotions. On n'était jamais questionné pour dire ces émotions. Donc on n'a pas eu ce contact avec ce monde intérieur, ce monde émotionnel, qui est aussi un monde intérieur. Hein, donc je trouve ça intéressant. Donc l'humilité face à nos émotions, c'est en fait de donner à l'émotion sa vraie place. L'émotion, elle a une place. Elle a une place dans nos vies, mais ce n'est pas elle qui a le gouvernail. Vous voyez, on pourrait dire que c'est un peu le vent dans les voiles, mais ce n'est pas elle qui est le gouvernail. Ce n'est pas elle qui va donner la direction. L'émotion, peut-être certains d'entre vous, vous êtes, vous connaissez la spiritualité ignatienne, Saint Ignace de Loyola, donc, qui parle justement de ces désolations et de ces consolations. Ignace de Loyola était aussi un homme, on disait que rien du mouvement de son âme ne lui échappait. Rien du mouvement de son âme ne lui échappait. C'est-à-dire qu'il était vraiment très... Et cette spiritualité ignatienne, c'est vraiment faire que ça commence d'abord par une intériorité émotionnelle, mais qui va ensuite, dans cette intériorité émotionnelle, et parfois aussi un guide qui me conduit vers qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Hein ? Dieu fait naître en nous des bons désirs en suscitant des émotions. Pourquoi est-ce qu'on se projette, par exemple, dans une vie de couple? Parce que précisément, parce qu'on a de l'idée d'être ensemble, hein, quand on est en préparation au mariage, etc., l'idée d'être ensemble nous donne de la joie. Oui, il y a une joie qui est... Et donc cette joie-là, elle va être comme un signe, comme une ratification hein, de l'appel du Seigneur. Oui, je pense que c'est intéressant de voir les choses dans une certaine unité. La sensibilité, c'est aussi quelle place donner à l'imagination. L'imagination, l'humilité face à l'imagination. Pourquoi c'est important? Parce que n'oubliez pas que les tentations rentrent par l'imaginaire. Les tentations rentrent par l'imaginaire. Je pense que si je vais, je ne sais pas quoi, prendre 50 euros dans le sac de la voisine, je vais être plus heureux. Je pense que si je mens, pour ne pas me faire prendre par la maréchaussée alors que j'ai franchi un stop, je vais être plus heureux. Voilà, je pense que l'imagination, c'est intéressant de voir que la tentation rentre par l'imaginaire. Le démon nous tente par l'imaginaire. C'est nous faire voir quelque chose de bon, quelque chose qui est objectivement mauvais. Oui, donc c'est intéressant de voir où est-ce que vous en êtes de votre imagination. Et là-dessus, on n'est pas forcément câblé de la même manière. Il y en a qui ont énormément d'imagination, par exemple. Mais l'imagination, et encore une fois, c'est comme la mémoire qui fait partie de la dimension intérieure, de la sensibilité, hein, les émotions, c'est quelque chose de profondément bon. Mais est-ce que cette imagination va ensuite faire que je me fais des films sur ce que pensent les autres? Ah mais si tu m'as regardé comme ça, c'est que tu penses ceci. Ben non. Oui, donc je pense que l'imagination, on la cadre en la mettant en contact avec le réel, en la mettant en contact avec une réalité objective. Et des personnes, moi, quand j'accompagne des personnes qui ont une très grande imagination, par exemple, c'est super, mais on les voit que ça les fait partir en vrille. C'est-à-dire qu'ils se font des films de choses qui n'existent pas. Et donc, je trouve que c'est intéressant de dire, ben, l'humilité face à l'imaginaire, c'est de remettre dans la réalité. Cette réalité que Dieu a choisie dans le mystère de Noël. C'est vraiment ça, c'est cette réalité humaine, c'est ce monde-ci, c'est pas un autre monde. Donc, je trouve ça intéressant, l'humilité face à la sensibilité, avec l'imagination et les émotions. Et pour terminer, je l'ai un petit peu évoqué, l'humilité, le courage. L'humilité, le courage. Il y a parfois des fausses humilités. Excusez-moi de vous demander pardon, c'est une fausse humilité. Il y a des fausses humilités qui font que, au contraire, je trouve que ce qu'on appelle la pusillanimité. La pusillanimité, je ne sais pas si vous savez ce que c'est au fond surtout qu'on ne pense pas à moi. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il y a un appel qui est lancé. Ah non, je regarde ailleurs. C'est la pusillanimité. Surtout, voilà. Alors que ce qui est signe d'humilité, c'est la magnanimité. Intéressant ça. La magnanimité est signe d'humilité. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très beau de dire. C'est-à-dire, magnanimité, c'est quoi? Désirer des grandes choses. Magna anima, avoir une âme grande. Que vous ayez des grands désirs. Des grands désirs pour le bien, votre bien spirituel, pour le bien de votre pays, des grands désirs pour vous-même, pour construire. C'est ça, c'est avoir une âme grande. Mais, eh bien, saint Thomas d'Aquin dit que la magnanimité est un exemple, une manière d'être humble. On vit l'humilité dans la magnanimité. Je dis ça parce que surtout nous, les cathos, on se fait des nœuds au cerveau en faisant que, voilà, on dit, ben non, surtout pas moi, faut que je sois humble, non, je vais pas accepter, non, mais je suis pas à la hauteur, je suis pas digne, blabla, etc. Donc, ben non. Mais ça peut être de la pusillanimité, qui est une forme d'orgueil. Oui, donc attention à la fausse humilité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce temps de l'Avent et singulièrement sur l'humilité. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez des questions ou des apports, des choses que vous aimeriez échanger, des témoignages sur votre humilité. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le risque de plaire, c'est pas forcément 0 ou 1, parce que c'est pas de ne pas vouloir plaire, c'est pas vouloir déplaire. Je pense que c'est pas tout à fait pareil. C'est parce que vouloir déplaire, c'est un peu idiot. Mais c'est vrai que ça peut blesser quelqu'un, etc. Mais je pense que le fait, c'est où est-ce qu'est le curseur entre à la fois être agréable, mais ne pas être toujours en train de quémander un regard d'approbation. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Bon, être agréable, je pense qu'on sera dans la salle tout à l'heure, surtout avec force spiritueuse, donc nous sommes tout à fait agréables les uns avec les autres, c'est tout à fait probable. Mais bon, mais c'est pas, ça c'est tout à fait normal, c'est la vie en société. Mais de dire la quête d'approbation, je sais pas si on me fait comprendre, c'est vraiment, je fais quelque chose du moment que c'est validé. C'est validé parfois aussi, est-ce que c'est validé par la famille? Est-ce que c'est validé par mes amis? Du coup, on est toujours en train de... une sorte de vie par procuration. Oui. résurrection. Alors, je ne suis pas forcément grand spécialiste, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les orthodoxes ne fêtent pas Noël en même temps que nous. Ils fêtent Noël le 6 janvier, avec l'épiphanie. Donc, c'est pas le 25 décembre, c'est l'épiphanie. Donc c'est, alors je ne sais pas si c'est lié, dans tout cas, il y a peut-être une dimension différente. Oui, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je ne sais pas si on peut dire. Je crois que la richesse de la tradition orthodoxe, c'est et de la tradition orientale en général, même dans il y a l'Église catholique latine, comme tu l'as très bien dit, il y a les églises catholiques orientales, de rite oriental, insistent beaucoup sur le Saint-Esprit. Pendant la divine liturgie, c'est-à-dire que nous on appelle la messe. Il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, où on invoque le Saint-Esprit, mais de façon très longue, de façon très détaillée, etc. Donc il y a une attention au Saint-Esprit dans notre vie. Et du coup, ce qui fait que c'est assez intéressant, c'est un petit peu en marge de notre thème, mais vous voyez, comment est construite une église catholique latine, c'est tout à fait différente d'une église orthodoxe. L'église catholique latine, c'est un peu deux mains jointes avec le clocher qui s'élève vers le ciel, alors que l'église orthodoxe, c'est un dôme. Et dans un dôme, du coup, on rentre dans le royaume de Dieu. On rentre dans une dimension du Saint-Esprit. Et du coup, vous voyez, bon, il n'y a pas de chaise. Vous circulez. Je veux dire que la divine liturgie dure 3 heures. Coup, vous pouvez sortir, boire un coup, vous revenez, vous êtes dans le Seigneur. Cette idée que vous êtes dans le Seigneur, quoi. Vous êtes un peu, et du coup c'est tout à fait étonnant, mais tout ça assez riche comme démarche spirituelle, de dire tiens voilà, il y a cette dimension du Saint-Esprit qui, on rentre dans le royaume de Dieu, on va voir les icônes de la Vierge Marie, les icônes des saints, on va faire ce qu'on appelle les métanoïas, vous avez vu, on se signe, on touche par terre, etc. Donc c'est ces actes d'humilité face à ça. On est dans le royaume de Dieu. Et je trouve qu'on n'est pas juste en tension vers le royaume, qui est l'Église catholique latine, mais l'Église orthodoxe, c'est cette vie dans l'Esprit Saint qu'ils accentuent davantage. Donc l'épiphanie, c'est là où il fête Noël. Oui.
C'est une question de l'ancien. Peut-être que vous ne trouverez pas toujours les gens, mais est-ce qu'il y a quelque chose de malsain à mettre son ego au service de Dieu? C'est-à-dire qu'on va être on va chercher à satisfaire son ego, mais plus se dire que en fait, au fond, on va faire quelque chose de plus grand, mais c'est un moteur ou un vecteur qui permet de faire quelque chose de plus grand.
Alors si satisfaire son ego, c'est ce dont j'ai parlé, la magnanimité, c'est-à-dire désirer des grandes choses, c'est pas forcément satisfaire son ego, c'est on désire, on se laisse déplacer par des grands désirs. Je trouve, en tout cas, je vois sa différence, c'est le désir de servir, par exemple. Et plus on sert une cause qui est élevée, évidemment, la cause de Dieu, plus c'est quelque chose qui est grand. Hein, de même servir son pays, de même servir sa famille, de même, etc., etc. Donc, je crois que c'est plutôt dans cette dimension de service, de dire qu'on peut vraiment désirer de grandes choses, et ce désir des grandes choses, c'est un acte d'humilité. Alors que spontanément, on ne verrait pas les choses comme ça. Donc, par exemple, moi, j'encourage beaucoup à l'ambition, par exemple, à l'ambition professionnelle. J'encourage beaucoup à ça, la bienheureuse ambition. Parce que, précisément, parce que plus vous avez de responsabilités, plus vous pouvez faire de bien. Plus vous pouvez être au service. Alors que celui qui dit non, excuse-moi, alors qu'il a les compétences, les talents, excusez-moi de vous demander pardon, ben ça c'est ce qu'on appelle le pusillanime. Oui, le pusillanime, c'est celui qui, précisément, voilà, se retrait. Donc, plaidoyer pour la belle ambition. J'ai fait un topo comme ça dans des conférences de SPNP, bon, ça remonte à plusieurs années. Plaidoyer pour la belle ambition. Parce que je trouve que, justement, on ne prend pas assez conscience, déjà, que nous, comme disciples de Jésus, comme on a beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. Alors, on reste très modeste. Voilà, aussi, ça nous oblige. Mais en termes de formation, ce que vous avez reçu de vos familles, peut-être d'un certain nombre du scoutisme, par exemple, de tous les groupes que vous avez fréquentés, etc., fait que vous avez quand même une manière d'envisager événements et personnes qui est tout à fait différente d'autres personnes. Vous avez une capacité à voir des choses là où l'autre ne les voit pas. Il y a une sorte de vision, une sorte de... Vous voyez, donc... Pour ça, c'est pour. Merci pour ta question, parce que du coup, n'hésitez pas à montrer au front, n'hésitez pas à y aller. C'est dans la dimension du service. Dans la dimension du service. Et si un jour bah, vous êtes mis de côté, à quoi est-ce qu'on voit quand c'était vraiment le service et non pas l'ego ou l'orgueil, bah, à un moment donné, on vous retire cette mission, bah, voilà, bah, vous accueillez simplement le fait d'être retiré. Mais vous vexez pas, vous ne montrez pas sur vos grands chevaux, mais qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, non. Ouais, c'est, j'ai bien aimé, j'ai regardé un peu, bon, c'est un peu l'actualité, mais le Premier ministre, là, dans son, quand il a parlé à la télévision, etc., il dit, moi, je suis là pour servir, etc., je suis là pour... Bon, si je ne suis pas là demain, je ne suis plus là demain, voilà. Donc, mais je trouve ça assez beau, cette manière de voir les choses. Donc, pour moi, c'est une très grande responsabilité. Donc, et il a pensé qu'il avait les... qu'on l'a appelé, le président l'a appelé, qu'il avait les capacités pour ça, parce que c'est un homme d'expérience. Donc, du coup, c'est intéressant de dire, voilà, c'est... en tout cas, ne freinez pas vos grands désirs quand ils sont dans une dimension de service.
Le rapport au temps qui peut être différent qui en fait, comment est-ce que vous voyez cette différence? Qu'est-ce que vous faites?
La différence dans le rapport de quoi à l'intérieur d'un couple, c'est un autre sujet, mais bah justement déjà de l'invitation à prendre conscience qu'on n'a pas le même rapport au temps. Il y en a qui anticipent beaucoup, il y en a qui sont lastminute.com, il y en a qui voilà qui sont ponctuels, il y en a qui sont systématiquement en retard, il y en a qui sont du soir, l'autre du matin, etc. Donc je trouve que c'est de prendre conscience parce qu'on est forcément immergé dans le temps, par définition. De fait, ce topo va avoir une fin. Donc, donc, du coup, de prendre conscience en quoi ce rapport au temps vient aussi impacter notre relation amoureuse. Et ça, il faut voir cas par cas, je ne peux pas donner de généralité. Mais en quoi ça vient impacter la relation amoureuse. De ne pas voir la même... Hier, j'étais avec un couple où il y en a une qui anticipait toujours. Déjà, dans 3 semaines, c'était tout clair. Toutes les soirées, clac, clac, blindé. Tout est... Lui, il arrive, il découvre le week-end. Ah, ce vendredi, c'est le week-end. Oui, mais... Ah ben, si je... Ah non, mais j'ai prévu ça. Oui, bon, c'est typique. Bon, c'est un petit exemple comme ça. Ben, ensuite, ça demande d'aller travailler. Mais du coup, ben, voilà. Donc, c'est intéressant de voir ça, de découvrir ça. Donc, voilà, c'est... Prendre le rapport au temps dans un couple, c'est pas une petite chose. Dans une communauté religieuse, on n'a pas du tout le même rapport au temps. Déjà que vous ayez 25 ans, on a un jeune là, qui vient de rentrer, là, qui a 25 ou 27 ans, etc. Et puis des frères qui ont 82 ans, c'est pas par définition. Vos grands-parents n'ont pas le même rapport au temps que vous, par exemple. Donc voilà, donc c'est. Je crois que c'est. Et c'est justement, ça nous aide à nous déplacer. Ça nous aide à être humble, à la patience.